Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, une immersion dans la vie quotidienne des Romains. Bonjour Philippe Fleury.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes chercheur spécialiste de la Rome antique et vous avez mis au point une technique pour nous plonger dans la vie quotidienne des Romains. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une maquette interactive de la Rome de Constantin au 4e siècle après Jésus-Christ. Alors, vraiment une maquette interactive, c'est-à-dire qu'elle prend le principe de la réalité virtuelle. On se déplace, on se promène, on visite la Rome comme si on y était il y a 1500 ans.
Qu'est-ce qui vous permet, Philippe Fleury, de reconstituer cette Rome antique qui nous fait tant rêver, qui nous intrigue ?
Alors, ce sont les sources habituelles des historiens, des archéologues, des chercheurs sur l'Antiquité, c'est-à-dire les textes, qui sont très importants, les textes latins et grecs qui nous parlent de la Rome antique. Ce sont les restes archéologiques et ce sont quelques représentations iconographiques des plans de l'Antiquité, des mosaïques, des monnaies qui représentent des monuments. Voilà, ce sont ces trois sources archéologiques, littéraires et iconographiques qui nous permettent de reconstituer Rome.
Bon, ben vous savez quoi, Philippe Fleury, grâce à vous, on va la faire ensemble, cette visite guidée dans la Rome du 4e siècle. On va rentrer dans les habitations, prendre un bain au terme et assister à un spectacle au Colisée. Vous restez avec nous.
Oh, j'aime bien le programme.
Allez, c'est parti.
RTL. L'architecture de Rome était résolument cosmopolite.
La curiosité est un vilain défaut.
Les réalisations colossales de Rome. Stades, palais, routes, aqueducs couvrent trois continents.
Sidonie Bonnec.
Rome semblait avoir été bâtie pour le plaisir et le désir.
Thomas Huc.
Comment vivaient les Romains ? C'est un voyage passionnant qu'on vous propose, les curieux, avec nos invités. La journaliste de Science et Avenir, Bernadette Arnault, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Et le spécialiste de la Rome antique, Philippe Fleury. C'est un partenariat avec RTL. Quelle est la taille de la ville de Rome dans laquelle on va se plonger, dans laquelle on va déambuler ? On est au 4e siècle avant Jésus-Christ. Ça représente quoi ?
Alors, on est au 4e siècle après Jésus-Christ.
J'ai dit quoi ? Avant Jésus-Christ ?
Avant Jésus-Christ. Mais c'est
après
pas grave.
Jésus-Christ.
Non, Rome, à cette époque, c'est une ville qui n'est pas très grande, qui fait 1800 hectares. Pour comparer, hein, aujourd'hui, Paris, c'est 10 000 hectares. Sauf que cette ville contient à peu près 1 million d'habitants. Ça a une densité absolument incroyable.
Les Romains vivent les uns sur les autres.
Ils vivent absolument. Et justement, Philippe Fleury me faisait remarquer qu'il fallait imaginer la densité d'une ville comme Manille. Pour voir
aujourd'hui.
Manille aujourd'hui, pour voir le peuplement que pouvait être celui de Rome.
Ils vivent où ? Ça ressemble à quoi une maison de Romains donc au 4e siècle après Jésus-Christ ?
Alors, il y a deux types d'habitats à Rome. Il y a les domus, ce qu'on appelle une des maisons, mais alors qui sont plutôt à Rome, dans la capitale, l'équivalent des hôtels particuliers sur Paris.
Donc c'est les maisons des riches.
Voilà, ce sont les maisons des riches, hein, vraiment même très riches. Hein. Et puis il y a ce qu'on appelle les insulae, qui sont les immeubles d'habitation collective.
C'est les Romains qui inventent les insulae, les immeubles ?
Alors, ce sont eux qui les ont développés, en tout cas, oui, c'est à Rome qu'on les connaît le mieux, ainsi qu'à Ostie, le port de Rome. Mm-hmm. Et ce sont des habitats collectifs qui vont pouvoir faire plusieurs étages, qui vont être impressionnants. Les Romains eux-mêmes reconnaissent que leur ville est une ville construite en hauteur. Quand vous parliez de... C'est Bernadette qui disait les uns sur les autres, c'est au sens propre. Hein. Ils habitent vraiment les uns sur les autres, parce que mettre 1 million d'habitants sur 1800 hectares, ben voilà, il n'y a pas d'autre solution.
Il n'y a pas d'autre choix.
Les uns sur les autres.
Oui. Alors, on va visiter. Là. Bon, je commence par une maison de riche. Hein. Allez, domus, c'est ça. Donc, il y a quoi comme confort à l'intérieur ?
Ah, il y a tout le confort que l'on peut imaginer dans une maison moderne. On entre d'abord dans un vestibule qui est souvent très important, et après on arrive dans l'atrium. L'atrium qui est une pièce à ciel ouvert. Autour de laquelle vont se distribuer les autres pièces de la maison. Mmh. C'est par là qu'on prend l'air, c'est par là qu'on prend la lumière, c'est par là aussi que tombe la pluie quand il en tombe, à Rome.
Il y a plusieurs chambres dans une domus.
Il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs salles à manger, il y a plusieurs salons, il y a des pièces qui peuvent être chauffées par des systèmes de chauffage par le sol.
Tiens, est-ce qu'il y a l'eau courante dans les domus ?
Il y a l'eau courante dans les domus, bien sûr.
Bah alors là, on va.
Donc là, on est chez les riches.
Là, on est chez les riches.
Alors, on va vivre chez les Romains.
Dans les insulae, alors ça se passe comment ?
De monsieur et madame tout le monde, c'est très très différent. Ce sont des appartements qui sont absolument minuscules. Vivre à Rome, ça coûte très cher. Donc les gens sont dans des surfaces qui font à peine 20 mètres carrés. Il n'y a pas de lumière. Ce qui entre, c'est juste par des ouvertures grillagées parce que il n'y a pas de vitres non plus.
Ouais.
Donc le mobilier est très sommaire, un lit. L'hiver, vous avez un petit brasero pour vous chauffer, pour vous éclairer. Vous avez quelques.
Mais ça veut dire, pardon, je vous interromps. Oui. Ça veut dire que comme cet habitat est petit, les gens sont les uns sur les autres, que c'est pas confortable. Ça veut dire que les Romains du peuple, hein, les Romains, oui, faisaient beaucoup de choses à l'extérieur de chez eux, beaucoup d'activités.
Dehors. Ils vivent dehors. Ils se nourrissent dehors, dans ces tabernes qui sont en bas de leurs immeubles. Mm-hmm. Ces immeubles qui peuvent justement atteindre 8 étages, il n'y a absolument pas d'eau. Pour boire, ils ont les fontaines qui sont dans la ville, il y en a de très nombreuses, on va y revenir sans doute. Ils vont se laver au terme, tous les jours, en fin de journée à peu près, ils passent 2 heures dans ces établissements. Voilà, ils sont dehors sans cesse.
Philippe Fleury, ça veut dire qu'ils font quoi? Que dormir dans ces insulaés, dans ces appartements de la Rome antique?
Alors, il faut comprendre que par rapport à nous, ils ont besoin d'aller à l'extérieur pour 3 choses.
Mmh.
L'hygiène du corps, alors que nous, on a des salles de bain qui nous suffisent largement.
Mmh.
Le spectacle, alors que nous, on a la télévision ou la radio, hein, bien entendu. Hein,
bien sûr.
Et l'information. Quand on veut s'informer, quand on veut savoir ce qui se passe, on va sur le forum, on va dans la rue. C'est le lieu d'information.
Dernière question sur ces insulae, ces immeubles que les Romains ont participé à développer. Est-ce que les Romains sont propriétaires, même si ce sont des logements modestes, ou ils payent un loyer ?
Dans les immeubles, ils sont locataires essentiellement.
C'est cher à l'époque
Non, alors c'est cher. Ça dépend où on habite. Le rez-de-chaussée est cher. Quelquefois, c'est le propriétaire qui se réserve le rez-de-chaussée.
Ah, c'est le rez-de-chaussée le plus cher, alors qu'aujourd'hui,
c'est l'inverse aujourd'hui, pour une raison qui est facile à comprendre. D'abord, c'est qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et deuxièmement, que lorsqu'il y a le feu, et c'est fréquent à Rome, ce sont ceux des étages supérieurs qui brûlent le plus vite. Qui brûlent, qui ont plus de chances de brûler vifs dans leur immeuble, bon. Alors que ceux du rez-de-chaussée peuvent s'enfuir.
Alors voilà. Justement, ces Romains qui ont l'habitude de vivre beaucoup à l'extérieur, et les rues romaines, à quoi ressemblaient-elles? On part s'y balader. Attention, il faut toujours garder le nez en l'air, vous allez comprendre pourquoi. Tout de suite, les curieux sur RTL.
Bonjour, c'est Julien Cellier.
Bonjour, c'est Marina Giraudot.
RTL Petit Matin.
Chaque matin, entre 4h30 et 7h, nous vous réveillons et vous informons dans la bonne humeur.
Autour de la table du petit déjeuner, Cyprien Signy et ses infos corrosives, Pauline de Saint-Rémy et les coulisses du pouvoir, Christian Menanteau pour décrypter l'actu éco, le chef Pasto pour réveiller nos papilles, et puis vous, bien sûr, au 3210 et sur la page Facebook RTL Petit Matin.
RTL Petit Matin avec Julien Cellier, chaque matin à 4h30 sur RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
On déambule dans Rome au 4e siècle après Jésus-Christ avec nos invités, le spécialiste de la Rome antique Philippe Fleury et la journaliste de Science et Avenir Bernadette Arnault. Alors cette question que posait Sidonie juste avant qu'on écoute les Enfoirés, pourquoi fallait-il toujours regarder en l'air dans les rues de Rome à cette époque, Philippe Fleury?
Eh bien pour deux raisons, parce que comme la ville est tout en hauteur, il y a des choses qui peuvent tomber, des fenêtres du premier, du deuxième, jusqu'au 8e étage, hein, puisque les immeubles peuvent être très hauts. Alors il y a des choses qui tombent accidentellement, on le sait par les textes juridiques qui nous indiquent que si on fait tomber un pot de fleurs, une cruche, quelque chose sur la tête de quelqu'un, il y a des sanctions qui sont prévues.
On peut être condamné.
Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est d'ailleurs pas la même chose selon qu'on va abîmer un esclave ou que l'on va abîmer un homme libre. Et puis, il y a aussi des choses qui sont jetées volontairement.
Ah oui, il n'y a pas de poubelle à l'époque.
Si, il y a des fumiers, il y a des tas d'immondices dans la rue où on doit déposer les immondices et où en principe les services de voirie la nuit viennent dégager tout cela. Mais il y en a qui, pour pas descendre tous les étages, eh bien, vont balancer les eaux usées directement par la fenêtre de l'immeuble.
Ah,
donc tout ça, on le connaît par les textes. Hein.
Mais c'est des rues sales alors, ça veut dire les rues de Rome. C'est pas des rues où on se balade, on essaye de filer le plus vite possible, c'est ça?
Alors, ça dépend des quartiers, bien sûr, hein, mais il y a certains quartiers, oui, qui ne doivent pas être très propres. D'ailleurs, on a un poète qui nous raconte que quand il rentre chez lui, il a souvent les vêtements pleins de boue. Hein. Il est sali, il va se promener dans Rome, c'est se salir. Hein.
Qu'est-ce qui nous frapperait le plus, nous, Parisiens de 2018, si on débarquait dans cette Rome du 4e siècle? L'odeur, peut-être? Qu'est-ce qui nous frapperait
le plus? Alors, les odeurs, très certainement. Ouais. Hein, les odeurs, à tel point que l'été, les Romains, tous ceux qui en avaient les moyens, aimaient bien avoir leur villa de campagne. Ce qui vous frapperait aussi, c'est l'absence de voitures. Alors je le dis au sens propre, parce qu'il y avait des véhicules dans l'Antiquité, mais la circulation sous l'Empire est interdite.
On ne circule pas dans le centre-ville.
C'est interdit.
C'est le rêve de la maire de Paris,
voilà.
Ça.
Et voilà, c'est un arrêté qui date de 45 avant Jésus-Christ. Ouais. La circulation est interdite du lever du soleil jusqu'à la 10e heure. 10e heure, ça fait 2 heures avant le coucher du soleil. Aujourd'hui, ça ferait environ jusqu'à 17h, 18h. Et donc, il est interdit de circuler. Sauf exception, les véhicules qui sont chargés des chantiers publics pour amener les matériaux, pour enlever les décombres, et puis les prêtres, les prêtresses qui ont le droit de circuler.
Bernadette, Arnaud, les Romains vivent pour la plupart dans des insulae, ces immeubles qui peuvent faire jusqu'à 8 étages. Vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas d'eau courante, pas de fenêtres, pas de toilettes aussi, j'imagine. Où vont les Romains pour faire leurs besoins ?
Alors, les dames, c'est à la maison parce qu'elles n'accèdent pas aux latrines où se rendent ces messieurs. Et les latrines de Rome, c'est quelque chose absolument inouï.
Donc, ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble... Déjà, je vais vous dire, il y en avait 144 dans la cité. C'est un endroit où il y a, on va dire, une sorte de grand siège en marbre percé de trous sur lesquels les gens s'asseyent. Et donc, c'est, tout ça est couvert, ouvert, commun, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez une autre personne.
On discute,
qui,
c'est ça.
On discute, oui, c'est ce qu'on dit. et puis il y avait des latrines avec 50 places, 60 places, 80 places. Vous imaginez un peu la situation. Alors voilà, donc.
Philippe Fleury, vous avez reconstitué aussi, puisque vous êtes là parce que vous avez reconstitué, vous nous permettez une visite virtuelle, c'est ça, hein. On peut la voir où d'ailleurs, on peut les voir où ces images ? Sur Internet ?
Alors,
sur
voilà,
un site particulier ?
Sur Internet, on a sur le site du Plan de Rome, ou bien sur le site du Plan de Rome également, mais c'est sur YouTube, les vidéos, les enregistrements, les captations, on appelle les Nocturnes du Plan de Rome, c'est des visites mensuelles de la ville de la Rome sur un thème différent à chaque mois.
Oui, c'est bluffant, on est vraiment en immersion dans la Rome antique.
Et on peut aller s'asseoir dans des latrines.
Par exemple, oui, en particulier dans les édifices de spectacle. On sait que le Grand Théâtre de Pompée, qui avait 20 000 spectateurs, a une immense latrine qu'on a reconstituée, qui, elle, fait une centaine de places. Et dont on peut encore voir des traces aujourd'hui à Rome. Hein. Les gens ne font pas toujours attention, mais quand on est sur le Largo Argentina, on voit un endroit où on a encore le canal dont parlait Bernadette Arnault tout à l'heure, qui est encore visible aujourd'hui.
On utilisait beaucoup d'eau dans Rome.
Énormément.
Cinq fois plus, je disais.
Oui, environ.
Aujourd'hui.
Si on estime la population à 1 million d'habitants, ça nous fait plus de 500 litres d'eau par jour, par personne. Alors qu'en France, on est autour de 140 en moyenne par jour, par personne. On a 11 aqueducs qui amènent l'eau en permanence, plus 8 diverticules sur ces aqueducs. Hein. C'est de l'eau qui vient des montagnes, des Apennins, en permanence. Et on la laisse couler en permanence. Alors ça a l'avantage aussi, puisqu'elle coule en permanence, de nettoyer les latrines, de nettoyer quelquefois les rues aussi.
Alors, est-ce qu'on faisait du sport à Rome ? Est-ce qu'il y avait des salles de sport ? Tiens, voilà une question à laquelle vous allez répondre dans un instant. Restez avec nous sur RTL.
Toutes les classes sociales affluent sur les gradins du Colisée.
RTL.
Partageant les spectacles offerts par l'empereur.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le poète Romain Martial en parle ainsi.
Égyptiens, ne soyez pas si fiers de vos pyramides. Elles ne sont rien à côté du nouvel amphithéâtre de l'empereur.
La curiosité est un vilain défaut.
Car le Colisée est aménagé comme une formidable machine pouvant accueillir tous les types de représentations. Tout y est prévu.
Doués ces Romains, on découvre leur vie quotidienne à l'occasion d'un article de Science et Avenir. Nos invités sont Arnaud, journaliste, et Philippe Fleury, spécialiste de la Rome antique. Vous avez d'ailleurs reconstitué ce Colisée romain qui est une machinerie absolument incroyable. Rappelez-nous à quel point c'est un lieu important, exceptionnel.
Alors les spectacles ont beaucoup d'importance chez les Romains. Les spectacles, il faut comprendre qu'ils sont toujours liés aux fêtes religieuses. C'est dans le cadre de fêtes religieuses. Et dans l'année, on a 175 jours à la fin de l'Empire de fêtes religieuses. C'est-à-dire 175 jours chômés, 175 jours de vacances.
Donc le Colisée ne désemplit pas, on y voit quoi ?
Alors, attention, on ne désemplit pas. 175 jours, finalement, ça correspond à peu près à nos 52 week-ends, plus à nos vacances. Hein. Alors, on va aller à différents types de spectacles. Le Colisée, c'est pour tout ce qui est sanglant. C'est-à-dire que ça va être spectacle homme contre bête, bête contre bête également, exécution de prisonniers, de condamnés, ou bien combat homme contre homme, ce qu'on appelle les combats de gladiateurs. Alors souvent ça se partage, la matinée ce sont les chasses, hommes contre animaux ou animaux contre animaux, le midi une sorte d'intermède des exécutions. Et l'après-midi, le spectacle qui passionne vraiment les Romains, ce sont les combats de gladiateurs.
Quand on visite Rome aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit du Colisée? Qu'est-ce qui manque de ce qui existait à l'époque?
Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est son squelette. Oui. Son squelette, donc, il nous manque toute une partie de sa périphérie, il nous manque tous ses gradins. Parce que l'époque utilisée, comme beaucoup de bâtiments d'Antiquité, a servi de carrière. Une fois l'Antiquité passée, on est venu se servir en matériaux. En marbre, les statues, on en fait de la chaux. Les marbres, les blocs qui sont récupérables, on les utilise pour la construction. Il nous manque tout le sol de l'arène. Il nous manque toute la statuaire. Dans les arcades, on avait différentes statues. Et puis, il nous manque aussi quelque chose de très important, qui était le système de protection contre le soleil. Parce que vous imaginez que les théâtres, comme les amphithéâtres, étaient à ciel ouvert.
Donc, il y avait des sortes de stores?
Voilà, c'est des sortes de stores, ce qu'on appelle des véloms. Qui était rétractable et que l'on pouvait mettre pour se protéger du soleil, pour protéger les spectateurs du soleil.
Bernadette Arnault, ces gladiateurs, ils devaient être sportifs. Est-ce qu'il y avait des salles de sport à Rome pour les Romains?
Alors pour les Romains, une fois la journée passée dans le Colisée, ils avaient très chaud, donc ils allaient au terme. Et donc pour faire du sport, il y avait une palestre. Une palestre, c'était le lieu où ils pouvaient faire des activités sportives, courir, etc. Et puis ensuite, ils se rendaient vraiment dans les thermes où il y avait différentes salles pour se baigner, pour avoir des massages, etc. Et puis pour...
Donc la salle de sport, c'était une annexe des thermes,
en quelque sorte. C'était une annexe des thermes à l'extérieur. Ouais. Et puis ensuite, ils entraient dans les thermes.
Ouvertes aux femmes aussi, c'était...
Ouvertes aux femmes. Les femmes, c'était le matin. Et les hommes, c'était l'après-midi. Parce que c'est quand même un lieu de grande mixité sociale, les thermes, puisque tous les Romains y allaient, quelle que soit leur situation, on va dire, civile, mais sauf les femmes et les hommes n'y allaient pas au même moment.
Il y a beaucoup de fontaines aujourd'hui encore à Rome, c'est l'une des raisons pour lesquelles on trouve cette ville magnifique. Est-ce qu'il y en avait encore plus à l'époque, au 4e siècle après Jésus-Christ? Bernadette
Arnault. Il y en avait pratiquement 1500, il y en avait dans toute la ville. Pour aussi, évidemment, c'était le seul accès à l'eau potable, c'était par ces fontaines qui étaient amenées, l'eau était amenée par les grands aqueducs romains, et aussi elles étaient là parce que il y avait la grande angoisse des Romains, c'était les incendies. Et ces fontaines servaient aussi à ça, pour l'extinction de ces feux qui pouvaient être très destructeurs. Et donc, il y avait des sortes de pompiers, carrément. Il y avait à peu près 7000
pompiers,
à peu près 7000 hommes, des vigiles, qui circulaient tout le temps dans la ville, parce que la cité pouvait s'embraser, ou un quartier entier pouvait s'embraser très vite.
Merci beaucoup, Bernadette Arnault. Le magazine Science et Vie, Science et Avenir de ce mois-ci a un dossier passionnant. C'est l'art de la guerre chez les Romains. Et on y retrouve aussi vos articles, Philippe Fleury. Et puis, on peut télécharger une application super pour Android, tablette et téléphone, et puis pour PC aussi, qui s'appelle Roma in Tabula et qui permet de se balader dans les rues de Rome. Merci.
Ça veut dire quoi, Roma in Tabula?
Ça veut dire Rome sur tablette.
Ben voilà, tout simplement. C'était comme ça qu'ils s'informaient aussi, j'imagine, avec des tablettes, sauf qu'elles étaient gravées.
Voilà, elles étaient gravées sur de la cire.
Merci beaucoup. Fin de cette émission que vous pouvez podcaster sur rtl.fr. On sera là demain à 14h.